Les rendez-vous du Mantois, tous les vendredis, de 8h à 8h20, BPM part à la rencontre des élus du territoire.
Bonjour à tous et bienvenue à vous qui nous retrouvez sur BPM comme chaque semaine pour ce rendez-vous incontournable avec un élu du Mantois. Il est 8h passées de 3 minutes et pour terminer la semaine en beauté, je suis en direct de Saint-Martin-la-Garenne, village de 987 habitants où il fait bon vivre, une commune tranquille avec son port de plaisance de 200 anneaux et ses pistes cyclables au bord de l'eau. Et pour en parler comme il se doit, Stéphane Champagne, maire de la ville depuis 2014 et vice-président délégué à la gestion des déchets pour la GPSEO. Monsieur le maire, bonjour.
Bonjour, je suis très heureux de vous accueillir ici à Saint-Martin-la-Garenne. Je vous remercie pour la présentation que vous venez d'en faire, qui était tout à fait réaliste, autant que favorable.
Ce matin, nous allons parler de différents sujets ensemble. Tout d'abord, le budget de la commune qui a été voté il y a quelques jours. Nous parlerons également d'une nouveauté sur la commune, le festival Musique en Garenne, puis de la journée de l'environnement, un moment festif pour parler d'écologie en s'amusant. Je vous propose de commencer par le sujet central, le budget. Il a donc été voté mardi soir comme l'aménagement, par exemple, du centre de loisirs.
Voilà, donc le conseil municipal a voté le budget mardi dernier. C'est toujours un grand rendez-vous annuel puisque c'est l'occasion de faire un point sur l'année écoulée, sur l'année à venir, puisque au-delà des chiffres, il y a tous les projets qui apparaissent à travers ce budget, bien évidemment. Donc cette année, en point structurant, nous avons le projet d'agrandissement du centre de loisirs de Sandrancourt, puisque c'est un centre de loisirs qu'on a créé il y a déjà plusieurs années. Et puis, il nous avait été demandé à l'époque de monter crescendo, si je puis l'exprimer ainsi, à savoir de commencer par un effectif d'enfants un peu plus faible. On n'ouvrait pas pendant toutes les vacances scolaires, seulement la moitié, et puis petit à petit, on monte en puissance, voilà, et ces prochains investissements, donc c'est l'accessibilité de ce centre de loisirs avec un parking, une entrée plus appropriée pour les parents et une aire de jeu pour les enfants.
Vous allez l'aménager en fait, c'est bien ça, vous allez modifier l'accès, oui, il va y avoir... Quand vont commencer les travaux ?
Les travaux devraient commencer au printemps.
Et se terminer vers...
C'est pas très long, on en a pour un mois à peu près, c'est juste simplement un aménagement, parking, entrée, etc. Puisque aujourd'hui, on entrait par une cour privée, enfin c'était un peu rudimentaire, et puis on monte en puissance et on en fait quelque chose de plus fonctionnel, de plus pratique.
Simplifier l'usage.
Voilà.
Autre gros projet, que vous aviez annoncé dans votre mandat, le projet de salle des fêtes. En revanche, il y a différentes contraintes pour ce projet.
Oui, alors la salle des fêtes, c'est un projet très contraignant. Bon, déjà, financièrement, c'est un gros projet, donc c'est vraiment le projet du mandat qui va s'étendre sur quelques années. Quelques années, puisqu'il y a le temps... des autorisations, des appels d'offres, des études, bien évidemment. Les contraintes, donc oui, vous en parliez. Donc les contraintes sont que aujourd'hui on fait une salle des fêtes parce qu'on avait une salle polyvalente qui faisait souvent usage de salle des fêtes, mais placée près des habitations, donc ce qui posait des problèmes de nuisance pour les riverains. Donc aujourd'hui, bien évidemment, la première contrainte, c'est de trouver un lieu le plus éloigné possible des maisons. Sauf que quand vous êtes loin des habitations, il vous faut aussi les réseaux, puisque si vous créez une salle des fêtes mais que vous êtes obligé de passer en assainissement non collectif et de faire venir l'électricité et l'eau sur une longue distance, vous augmentez vite le coût de votre projet. Donc on a trois contraintes: être loin des habitations, être proche des réseaux, et puis naturellement
on
a
notre... les réseaux, donc c'est
eau, électricité, assainissement. Et puis troisième contrainte, donc bien sûr notre document d'urbanisme, le plan local d'urbanisme intercommunal, le PLUI, puisque naturellement il faut que cette construction puisse entrer dans nos documents et dans la zone choisie.
Donc là, a priori, le terrain semble plutôt déterminé.
On a identifié le terrain, effectivement, donc pour les raisons que je viens d'évoquer, c'était pas simple et donc on n'avait pas énormément de possibilités, donc a priori ça devrait se trouver autour du stade.
Donc ça, c'était vraiment un des grands projets. Alors, vous savez quand est-ce qu'il pourrait être réalisé ?
Pour l'instant, comme je vous le disais, on en est aux phases études de sol, etc. On a ensuite les appels d'offres. Donc voilà, l'idée, c'est d'arriver à le sortir de terre avant la fin du mandat. Je pense que ça, c'est l'objectif.
Autre projet, vous avez parlé déjà de vidéoprotection. Vous avez fait plusieurs demandes. Où en est-on aujourd'hui?
Alors, la vidéoprotection, on a fait deux demandes de subvention jusqu'à présent, donc pour des DETR, des subventions d'État, qui nous ont été refusées les deux fois. La dernière fois, donc, l'État a changé le type de caméra qui était subventionnable. Donc, on a dû, en plus, revoir notre devis, nos études et nos types de caméra. Donc, on vient de représenter cette demande de subvention auprès de l'État très récemment. Voilà. Donc la vidéoprotection, c'est quelque chose d'assez essentiel et c'est quelque chose qu'on avait promis il y a déjà quelques années.
On parle d'une commune vraiment tranquille. Quel est aujourd'hui l'intérêt, par exemple, pour une ville comme Saint-Martin-la-Garenne de s'équiper en vidéoprotection?
Alors on parle effectivement d'une commune tranquille en espérant qu'elle le reste. Aujourd'hui, il y a effectivement... Alors ce qu'on souhaite, c'est pas équiper de caméras les rues. En fait, pour plein de raisons et j'allais dire presque philosophique également, puisque voilà, la vidéoprotection, il y a des pros, il y a des anti. Les gens aiment pas forcément se dire que ils se baladent dans une rue, il y a des caméras au-dessus de leur tête. Donc notre idée, c'est vraiment de boucler les entrées et sorties de villages. Et pas forcément les rues. L'intérêt, c'est que quand vous faites cambrioler, la gendarmerie voit les voitures qui sont entrées dans le village dans les heures précédentes, qui en sont sorties dans les heures suivantes, et ça aide beaucoup les gendarmes. Je sais qu'ils en sont très friands. Donc, je parle des cambriolages naturellement. On a aussi un gros fléau, et je pense que tous mes collègues des maires ruraux, tous mes collègues maires ruraux vous en parlent, c'est les dépôts sauvages.
C'est vrai que c'est un sujet qui revient beaucoup en ce moment.
Et sur les dépôts sauvages, pouvoir voir le véhicule qui rentre avec la remorque pleine et qui sort avec la remorque vide, ça permet aussi là de remonter, puisque... Alors sur les dépôts sauvages, ces dernières années, on a réussi parfois à identifier des auteurs qu'on poursuit, bien évidemment. Et d'ailleurs, très récemment, on a identifié une personne grâce aux caméras de vidéosurveillance de la commune voisine, donc Follainville-d'Edmont, qui est déjà équipée.
Combien de caméras, pour donner une idée, ça représenterait?
On est sur 8 caméras à peu près.
Oui, donc puisque... l'idée est vraiment pas d'équiper toute la ville.
Non, c'est vraiment entrée sortie de ville à une ou deux exceptions près, en l'occurrence le stade et des points un peu sensibles où on a pas mal de dégradations souvent.
Au niveau du budget, il y a eu aussi l'aménagement de l'entrée du port. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
Oui, alors on a la chance d'avoir sur Saint-Martin-la-Garenne le plus grand port de plaisance d'Île-de-France, donc avec 200 anneaux, donc une activité portuaire de plaisance. À l'entrée de ce port s'est installée une entreprise avec pas loin de 25 salariés. Donc entreprise privée, totalement, qui est à l'entrée du port. Ce qu'on souhaiterait, c'est aménager cette entrée aujourd'hui, puisque déjà il y a une coactivité entre ces deux entreprises qui soit s'entendent très bien mais ne sont pas sur les mêmes activités. Aménager pour que chacun soit un peu chez soi, je dirais, ça c'est l'aspect contraint. Et puis en faire aussi quelque chose d'agréable, puisque voilà, c'est un port de plaisance et que l'entrée n'était pas forcément soignée, puisqu'elle est en l'état, j'allais dire, dans son jus. Donc aujourd'hui, en faire un endroit agréable dès l'entrée du port.
Et ça, c'est prévu pour quand aussi?
Ça, c'est prévu, je dirais, aller début d'année prochaine, entre les autorisations, les financements, etc. Puisque là aussi, naturellement, on demande des subventions, on essaie de chercher des subventions sur tous nos projets, quels qu'ils soient.
La commune va vibrer durant les beaux jours qui arrivent et qui reviennent, avec un tout nouveau festival de musique que vous avez souhaité, Musique en Garenne. Qu'est-ce que va être exactement cet événement ?
Alors, Musique en Garenne, donc c'est un projet sur lequel a travaillé particulièrement mon adjointe Delphine Goron, ma première adjointe en charge de l'urbanisme. Donc on souhaite inaugurer cette année ce festival qui aura lieu tous les ans à Saint-Martin-la-Garenne entre le mois de juin et le mois de septembre, avec 7 dates de concerts, des types de musique un peu différents. Ça peut aller du rock pop, une soirée DJ, etc. Une soirée guinguette également, importante pour nos aînés et pas que d'ailleurs. Mais voilà, on essaie de penser un peu à tout le monde, de faire quelque chose de populaire dans tous les genres de musique possibles. Donc le principe, c'est un groupe local et un food truck, donc avec solution de restauration, pour que les gens puissent passer un moment agréable.
Donc cette date animée entre juin et septembre.
Voilà, entrée libre naturellement.
Pourquoi avoir voulu un tel festival sur la commune ?
Parce que je pense que le rôle des élus de proximité et des maires en particulier, c'est vraiment aujourd'hui de créer du lien. Et c'est quelque chose que peut-être aujourd'hui on ressent plus que jamais depuis les années Covid. Au-delà des grands projets dont on parle qui peuvent être un peu structurants, une ville, c'est pas que des infrastructures, c'est pas que des routes, c'est aussi, on parlait tout à l'heure d'un village tranquille et agréable, c'est aussi le bien vivre. Et c'est ça qu'on travaille et que je pense les élus de proximité doivent travailler.
Une envie de mettre de la vie dans la ville.
Absolument.
Un autre événement va aussi animer la commune plus prochainement. Une journée que vous avez voulu festive, surtout pas ennuyeuse. La journée de l'environnement sera donc le 13 mai prochain. Est-ce que vous pouvez nous en parler, ça aussi, de cette journée ?
Oui, bien sûr. Alors, contrairement à ce qu'on vient d'évoquer, donc le festival Musique en Garenne a vocation à être un festival que les habitants et les festivaliers pourront retrouver chaque année. Là, on est sur une action beaucoup plus ponctuelle. La journée du 13 mai, donc une journée environnementale, et ça, c'est quelque chose à quoi on tenait beaucoup. On s'est greffé sur le Salon du Jardinier, qui était déjà organisé par le comité des fêtes à cette date. Donc ce qu'on souhaitait, c'est faire une journée de prise de conscience des enjeux nouveaux qui s'annonce. Donc cette journée, elle est faite autour des circuits courts, puisqu'on aura un brasseur local, vous le disiez, on fait quelque chose de festif. Alors il y aura des stands tels que la fresque du climat, où on prend conscience de la réalité environnementale, des enjeux qui nous attendent, et parfois je le dis un peu pour avoir vécu cette fresque du climat une fois, c'est vrai que je dis, quand on sort de ces 2-3 heures d'atelier de travail, on est un peu morose, parce que c'est vrai que
la réalité.
Voilà, la réalité est parfois un peu compliquée. Toutefois, on voulait que cette journée soit une prise de conscience, mais également une journée festive. Donc on a à la fois le thème des mobilités douces, avec exposition de véhicules électriques, voitures électriques. On a des vélos électriques qui permettront de découvrir ce mode de transport. Donc en vélo électrique, les gens sur inscription pourront se rendre de la halle de Saint-Martin jusqu'au port de Lillon pour découvrir le vélo électrique et sur place le bateau électrique, tout ça gratuitement.
Donc l'idée est de faire une balade.
Absolument.
À vélo électrique pour le découvrir, c'est ça ?
Tout à fait.
Jusqu'au port.
Le port qui, je le rappelle, est pavillon bleu, donc puisqu'on a fait une station d'assainissement non collectif pour rendre ce port un peu plus éco-responsable, puisqu'aujourd'hui donc les eaux sont traitées et ressortent en qualité eau de baignade, ce qui vaut le pavillon bleu à notre port. Donc pour en finir avec cette journée, donc la fresque du climat, je le disais, on a des ateliers réduction des déchets avec GPSCO, avec l'Office du développement durable des Mureaux, sur les économies d'énergie, donc le Nomad Appart, je crois que vous en avez parlé.
Pas encore, justement. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce qu'est un Nomad Appart ?
Alors, le Nomad Appart, donc c'est une animation proposée par l'association Énergie Solidaire. Vous avez un camion dans lequel vous montez et qui représente un appartement avec l'eau que vous utilisez, l'électricité. On vous explique, par rapport à l'ampoule, au robinet, comment économiser de l'eau, économiser de l'électricité, etc.
Donc c'est un petit chez-soi pour se mettre en condition du réel ?
Absolument.
Le but étant d'expliquer.
Le but étant d'expliquer effectivement comment économiser au quotidien de l'eau, de l'électricité, etc. Et de changer ses ampoules, de peut-être mettre des réducteurs d'eau sur les robinets, etc. Voilà.
Donc, tous les petits gestes du quotidien qu'on peut...
Tous les petits gestes du quotidien qui, mis bout à bout, permettent d'une part des économies, parce que la période est pas simple pour les administrés, et puis surtout de penser à l'environnement, puisque au-delà de l'aspect économique... je pense que personne ne perd de vue aujourd'hui les enjeux qui viennent vers nous.
Justement, les mobilités douces, on en parle de plus en plus. C'est vrai que c'est un gros sujet sociétal. Vous avez d'ailleurs mis une piste cyclable aussi autour du port. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette importance de la mobilité douce ?
Alors, cette importance de la mobilité douce, aujourd'hui, je pense que ça s'impose un petit peu à tout le monde. Effectivement, donc on a fait, c'était en 2018, je crois, si ma mémoire est bonne, 2,5 km de pistes cyclables allant de Sandrancourt au port de Lillon. Aujourd'hui, on a des initiatives départementales, on a des initiatives d'État. On sait que tout le monde s'intéresse un peu à ces modes de circulation douce. Et pour en avoir parlé il n'y a pas longtemps, donc dans le cadre de l'organisation de cette journée avec une personne qui vend ses vélos électriques, on se dit que pour nous, à Saint-Martin-la-Garenne, on est peut-être un peu loin de Mantes-la-Jolie, etc., et des lieux de bassins d'emploi. On me disait qu'en fait, souvent, les gens découvraient le vélo électrique, peut-être dans une première utilisation pour des déplacements plutôt touristiques et de loisirs, et puis finalement, finissaient par s'approprier ce mode de déplacement pour en faire des trajets parfois plus longs et aller, pourquoi pas, jusqu'au lieu de travail ou jusqu'au lieu de transport en commun. Donc ça aussi c'est un bel enjeu.
Donc au départ on tente, on fait des petits trajets, c'est ça, et puis ensuite on se sent plus confiant et on découvre qu'on peut aller beaucoup plus loin.
C'est un peu ça, c'est une expérience que j'ai pas vécue mais qui m'est revenue par un professionnel qui me disait qu'effectivement souvent les gens abordaient le vélo électrique en disant on va l'utiliser pour une sortie le week-end, pour quelques petits trajets très courts, et puis finalement montaient crescendo parce qu'ils s'apercevaient que le mode était agréable et puis qu'ils finissaient par se l'approprier pleinement.
Justement, l'électrique, il y en aura pas mal, puisque vous nous avez parlé des balades à vélo électrique pour relier le port et faire une balade là aussi en bateau électrique. Il y aura aussi des véhicules électriques. L'électrique, c'est ce vers quoi on tend de plus en plus.
L'électrique et d'autres modes, aujourd'hui on parle pas mal d'hydrogène et je pense que l'électrique réglera pas tout sur le plan national. J'imagine pas la France demain avec un parc 100% électrique. Je pense que en termes d'énergie, il y a pas mal de pistes et pas mal de modes alternatifs. Je pense que on sera pas sur un mode unique de consommation dans l'avenir. Enfin, ça c'est ma vision.
Cette journée de l'environnement, vous l'avez vraiment voulu, hein, c'est ce que vous disiez. Est-ce que ça répond à une demande ?
Ça répond à une aspiration en tout cas, une demande je sais pas, mais je pense qu'en tout cas le public sera au rendez-vous, donc oui, j'imagine que ça répond aussi à une demande. C'était pas quelque chose qui était spécialement sollicité, mais c'est quelque chose que l'équipe municipale souhaitait mettre en place.
Quand on parle d'environnement, on sait que c'est un sujet qui vous tient à cœur, et vous êtes également vice-président délégué à la gestion des déchets pour la GPSEO.
Oui.
Comment ça se passe ? Quel est votre rôle ?
Alors, sur les déchets, les chantiers qui sont devant nous sont énormes. En quelques mots, je dirais que aujourd'hui, l'idée, c'est de trier plus. On a eu l'extension des consignes de tri au 1er janvier dernier. Donc, ça, c'est très important. Aujourd'hui, on commence à trier plus et surtout trier mieux. L'objectif de tout ça, naturellement, c'est de valoriser une partie de nos déchets. Une autre partie de déchets ultimes va à l'incinération, mais réutilisée donc pour de l'énergie, éventuellement des réseaux de chaleur, etc. Et le plus gros enjeu, c'est également d'arrêter ou de limiter au maximum l'enfouissement, puisqu'on a toujours quelques déchets ultimes qui finissent à l'enfouissement, et ça, c'est plus acceptable à notre époque. Donc c'est là-dessus qu'on travaille. Ça se fera pas en quelques jours. C'est un gros chantier. Ça peut être très long. Mais en tout cas, c'est les objectifs vers lesquels on tend.
Et ce sera sur ces mots que nous allons conclure notre émission. Monsieur le maire, je vous remercie de nous avoir reçus pour parler de Saint-Martin-la-Garenne.
C'est moi qui vous remercie.
J'en profite pour remercier l'équipe technique de BPM. Cette émission sera disponible en podcast sur notre site bpmlaradio.com où vous y retrouverez également nos précédents rendez-vous du Mantois. Quant à moi, je vous retrouve dans quelques minutes pour votre journal d'information locale. Tout de suite sur BPM, c'est le retour de Robin dans la Mantinale.
Les rendez-vous du Mantois, tous les vendredis, de 8h à 8h20, BPM part à la rencontre des élus du Mantois.
6h-9h, c'est la Mantinale sur BPM avec Pauline et Fredo.